notre conférencier de ce soir. Donc, il s'agit d'Albert Fehr, prix Nobel de physique 2007. Il est membre de l'Institut. Il est docteur d'état de physique. Depuis 1976, il est professeur à l'Université Paris 11, ex-Paris-Orsay, Paris-Sud. Et depuis 1995, directeur scientifique de l'unité mixte de recherche CNRS Thales. Depuis 2008, il est membre émérite de l'Académie des technologies. Je ne vais pas présenter les avancées et ses contributions à la science physique. Ce serait bien prétentieux de ma part. Donc, je vais lui donner la parole pour une cinquantaine de minutes, mais nous ne sommes pas formatés à la minute près. Et puis ensuite, je reviendrai à ce bureau pour la série des questions. Donc, je remercie Albert Fehr d'être avec nous ce soir. Merci.
Merci pour l'introduction. Bravo à Michel Verdaguer pour l'organisation de cette belle série de conférences. Bonjour, bonsoir à vous tous. Et je vais vous parler de spintronique. Alors, qu'est-ce que c'est la spintronique? Bon, on peut dire que, en simplifiant, que c'est un nouveau domaine de science à l'interface entre l'électronique et le magnétisme. C'est aussi un nouveau domaine de la technologie. Parfois, on dit que la spintronique, c'est un nouveau type d'électronique qui exploite non seulement la charge de l'électron, comme l'électronique classique, mais aussi le spin de l'électron, le petit moment magnétique de l'électron. Donc, je vais vous expliquer tout ça. La première projection, au fond, résume ce qu'est la spintronique. Le dessin qui est à gauche représente un électron, la charge en bleu, une charge, et la flèche, c'est le spin, en gros, le petit moment magnétique, le minuscule de l'électron. Alors, on utilise le spin en exploitant la propriété qu'ont les matériaux magnétiques. Cette propriété étant que dans un matériau magnétique, les électrons dont le moment magnétique est dans la direction du pôle nord et dans la direction opposée n'ont pas la même mobilité, n'ont pas les mêmes propriétés de conduction électrique. Et cette propriété sera exploitée en spintronique de façon systématique dans divers types de nanostructures. Nanostructures, c'est par exemple une multicouche empilant trois couches d'un certain atome, deux couches de notre atome, hein, c'est-à-dire des structures artificielles fabriquées à l'échelle du nanomètre. Au fond, la spintronique, c'est les nanotechnologies qui ont permis aussi l'émergence de la spintronique, la possibilité de fabriquer de telles structures. Et en exploitant les propriétés, l'influence du spin sur la mobilité des électrons dans ces nanostructures, on obtient divers effets de spintronique. En fait, la spintronique, comme vous le savez, est surtout connue pour les applications de la magnétorescence géante. On connaît les applications de la magnétorescence géante, on l'utilise pour la lecture des disques durs, on l'utilise pour écouter de la musique sur nos iPods, c'est une propriété qui a été bien connue, on en a beaucoup parlé au moment du prix Nobel, mais en fait, la magnétorescence géante, ce n'est qu'une étape dans l'évolution de la spintronique. Il y avait des choses avant, il y avait toute une physique de base qui s'est construite avant la découverte de la magnétorescence géante et la physique de l'influence du spin sur la mobilité des électrons. Et depuis, il y a un développement considérable de la spintronique dans beaucoup de directions. Les premiers effets ont été donc la magnétorescence géante, Giant Magnetoresistance en anglais, GMR, et puis des effets semblables dont on parlera, la Tunneling Magnetoresistance, TMR. C'est la spintronique classique, ce sont des effets qui ont déjà leurs applications, la lecture des disques durs, pour la TMR des mémoires de type MRAM, dont je parlerai, et diverses autres applications. Et actuellement, la spintronique a révélé bien d'autres phénomènes liés aussi à l'influence du spin sur les propriétés de conduction électrique, et elle se développe dans beaucoup de directions. Par exemple, je parlerai beaucoup des effets de transfert de spin. Et je vais les expliquer rapidement. Dans un effet de transfert de spin, dans une expérience de transfert de spin, on va manipuler un aimant, une direction d'aimantation, sans appliquer de champ magnétique, comme d'habitude, mais simplement par une espèce de transfusion d'électrons dont on a orienté le spin au préalable. Et cette transfusion de spin, ce transport d'aimantation à distance, sera utilisée soit pour renverser l'aimantation d'une mémoire, ça ce seront des applications assez prochaines, soit pour aussi générer des oscillations de l'aimantation de l'aimant et être la base d'un nouveau type d'oscillateur pour l'émission d'ondes hyperfréquences, d'ondes radio. Donc ça, c'est une direction nouvelle intéressante dont je parlerai. Et il y a aussi beaucoup d'autres directions. Actuellement, un domaine où il y a beaucoup de recherches, c'est un domaine de recherche qui est la fusion entre l'électronique classique avec semi-conducteurs et la spintronique. Et aussi d'autres domaines comme la spintronique moléculaire, le calcul quantique, et je n'aurai pas le temps de parler de tout. Alors, je vais décrire ce développement, au fond, ce développement le long de cette ligne, depuis la physique de base jusqu'aux applications les plus récentes, mais je vais commencer plutôt de façon plus concrète. Je vais prendre un exemple particulier d'application, la lecture du disque dur, et je vais montrer où intervient la spintronique, où intervient la magnétruissance géante, et où sont impliquées aussi les nanotechnologies. Et on commence par la fin et ensuite on développera la physique de base. Donc, exemple concret d'application de la spintronique. Il faudrait que ça marche, oui. Donc, voici un disque dur. C'est un disque métallique sur lequel on a déposé un film d'un matériau aimanté, d'un matériau qui peut s'aimanter, magnétique. C'est un alliage de cobalt en général. Et l'aimantation est stockée. Attends, comment ça ? Il faut que j'apprenne à. Ouais. L'aimantation est stockée sous la forme de cette forme. Sur la piste, il y aura des segments dont l'aimantation est dirigée vers la droite ou vers la gauche. Vous voyez des couleurs différentes, c'est-à-dire ça c'est un pôle nord et ça c'est un pôle sud. Et là, on n'est pas à l'échelle nanométrique. Vous voyez, ces inscriptions sont relativement grosses par rapport à l'échelle du nanomètre. C'est 50 nanomètres. Là où on arrive à l'échelle du nanomètre, c'est dans la tête de lecture. La tête de lecture présente ce qui est appelé un élément GMR. Alors, qu'est-ce que c'est que cet élément GMR ? C'est une multicouche magnétique. Ça marche ? Oui. Cette multicouche magnétique, c'est un assemblage, une nanostructure, c'est-à-dire une stratification d'un film en couches très fines. Vous voyez, les boules, ça représente des atomes, et on a trois couches atomiques de fer, par exemple, trois couches atomiques de chrome, trois couches atomiques de fer, etc. Ça, c'est une multicouche magnétique, c'est les nanostructures dont j'ai parlé, et cette multicouche présente l'effet de GMR, de magnétruissance géante, c'est-à-dire que sa propriété va être une conductivité électrique bien meilleure dès qu'elle est placée en présence d'un champ magnétique. Sa résistance électrique va chuter et elle va être utilisée, cet effet va être utilisé pour détecter les petits champs magnétiques créés par les bits magnétiques et donc lire les inscriptions magnétiques sur cette piste. Donc, vous voyez, un effet, une nanotechnologie pour fabriquer ces multicouches, un effet lié au spin qui est la magnétruissance géante, le résultat étant une détection possible des champs magnétiques sur la piste par la chute importante de la résistance électrique de ce film-là dès qu'il est placé au-dessus du champ magnétique créé par un bit. Alors maintenant, vous avez vu un peu l'utilisation de la GMR, on va voir son explication et la physique de base. Électron, spin, physique de base de la spintronique et découverte de la magnétruissance géante. Alors je reviens sur l'image de l'électron, sa charge et son spin. Son spin, c'est ce vecteur. Ça représente aussi bien le spin que le moment magnétique qui est associé. Alors c'est une propriété quantique de l'électron. Difficile à décrire en termes classiques, mais si on veut s'en faire une image simple, un peu trop simple, on peut dire que, imaginez que l'électron tourne sur lui-même et donc crée ce petit moment magnétique vertical. Évidemment, c'est une propriété quantique, ce n'est pas simplement un vecteur qui peut s'orienter dans toutes les directions. L'orientation est quantifiée, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, ces petits moments électroniques, ça marche assez mal, mais c'est vrai. Sont à la base du magnétisme. Au fond, le magnétisme du fer, d'un matériau aimanté, c'est dû au fait qu'on a dans un corps magnétique un nombre différent d'électrons dont le spin est orienté vers le pôle nord et vers le sud. Et c'est dans cette symétrie, les spins électroniques sont à l'origine des matériaux aimantés. Il y a aussi des spins sur les noyaux, mais beaucoup plus petits, qui n'ont pas une influence considérable sur l'aimantation. Donc le magnétisme, c'est simplement une dissymétrie entre le nombre de spins vers le haut et vers le bas. C'est ce qu'on appelle l'aimantation spontanée des matériaux ferromagnétiques. Les matériaux ferromagnétiques sont ceux qui possèdent cette dissymétrie entre le nombre d'électrons orientés dans un sens et dans l'autre. En fait, à cause de la quantification du caractère quantique du spin de l'électron, il se trouve qu'on ne peut pas l'orienter, on sera obligé de considérer uniquement les électrons dont le spin est vers le haut, les électrons de spin majoritaires, les plus nombreux, on appellera spin-up électrons, et des électrons vers le bas, les électrons spin-down. Alors, j'ai parlé du magnétisme, les électrons et leurs spins sont importants, sont à la base des propriétés magnétiques. Alors maintenant, passons aux propriétés de transport électrique, aux propriétés d'électronique. Donc, l'électronique, en électronique, eh bien, on ne se préoccupe pas du spin, on fait bouger les électrons en agissant sur la charge avec un champ électrique. Et la spintronique, ça va être simplement un autre moyen d'agir sur les courants électriques en agissant sur le spin à l'aide de matériaux magnétiques. Donc, la propriété qu'on va utiliser, c'est celle que j'ai déjà présentée dans mon premier transparent, c'est la propriété que dans un fil d'un matériau magnétique, par exemple, eh bien, on aura des mobilités différentes pour les électrons dont le spin est dirigé vers le pôle nord, dans la direction de l'aimantation, ou vers le pôle sud. Et en fait, le principe général, ça va être de placer sur le trajet des électrons, dans un circuit électrique, des petites couches de matériaux magnétiques qui vont servir de filtre et séparer les électrons de spin up et de spin down. Alors, j'explique d'abord la physique de base. Au fond, un peu de physique, parce que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de physiciens dans la salle, il faut leur parler aussi pour eux. La propriété d'un matériau ferromagnétique, c'est d'avoir un décalage des bandes d'énergie. Les énergies des électrons dans un matériau sont situées dans certaines bandes d'énergie. Et la propriété caractéristique d'un matériau magnétique, c'est que les bandes des électrons majoritaires, de spin majoritaire up et minoritaire down, rouge, sont décalées. Pour les propriétés de conduction, ce qui compte, c'est les fonctions d'onde des électrons au niveau de Fermi. Vous voyez, ça, c'est le remplissage, le niveau de remplissage. Il y a plus de remplissage pour les bleus que pour les rouges. Et les électrons qui sont au niveau de Fermi, qui conduisent le courant, aussi, sont aussi dans des fonctions d'onde différentes et donc vont conduire différemment le courant. Et au fond, en première approximation, ce qu'on va avoir, c'est des conductions en parallèle par deux canaux, avec des conductivités différentes. Et c'est le contraste entre ces deux voies de conduction peut être très fort, surtout par exemple si on dope le matériau avec certains types d'impuretés. Au fond, vous savez que la conductivité électrique est limitée par le freinage des électrons, par des défauts, par des impuretés. Et au fond, il est possible de trouver des impuretés qui vont freiner beaucoup un type d'électron, une direction de spin, et laisser passer l'autre. Et par exemple, en dessous, vous voyez un résultat expérimental qui montre la résistance électrique induite par 1% de divers types d'impuretés dans le nickel pour la direction de spin minoritaire, down et majoritaire. On voit que, par exemple, si je mets des impuretés de cobalt, je pourrais avoir une conductivité 20 fois meilleure pour la direction de spin up. Au contraire, pour des impuretés de chrome, ce sera l'inverse. La conductivité sera meilleure dans l'autre canal. Ces résultats ne sont pas nouveaux. Au fond, ce sont des résultats de ma thèse en 1970. Et déjà, à l'époque, on avait déjà la compréhension de ces phénomènes grâce aux théories développées par l'équipe Friedel, qui était un grand théoricien de la physique des métaux. Et on comprenait ces propriétés. Au fond, pourquoi une impureté freine beaucoup les électrons et une autre ne les freine pas beaucoup? Ça dépend du raccord entre les fonctions d'onde du métal et de l'impureté. Et dans un métal ferromagnétique, à cause du décalage des énergies des électrons des deux directions de spin, ce raccord entre fonction d'onde de métal et l'impureté n'est pas le même pour les deux directions de spin. Et dans certains cas, on peut obtenir un contraste très fort entre le freinage des électrons pour une direction de spin et pour l'autre, et avoir ces rapports très forts entre les conductivités des deux canaux. En fait, à cette époque-là, il y avait même des expériences qui étaient basées plus ou moins sur le concept de la magnétoresistance géante. Au fond, ça veut dire que cette figure, que quand on met par exemple des impuretés de cobalt, on met beaucoup d'obstacles sur ce canal, et par contre, ce canal est pratiquement libre. Alors, les expériences qui anticipaient la magnétoresistance étaient de ce type. Des expériences où je mettais dans le même métal, nickel, deux types d'impuretés A et B. Et on peut considérer d'abord le cas où j'ai choisi des impuretés A et B d'asymétrie de spin opposée. C'est-à-dire l'impureté A va freiner les électrons dans ce canal et laisser ce canal libre. Et ce sera le contraire pour l'impureté B. Alors, quand on met les deux impuretés à la fois dans le même nickel, eh bien, on se doute bien que les deux canaux vont être bloqués par ces obstacles et donc la résistivité va beaucoup monter. C'est ce qu'on voit dans ces résultats expérimentaux pour 1% total de concentration en fonction de la concentration relative de cobalt et de rhodium. On voit qu'au lieu d'avoir une variation progressive, on a une forte augmentation de la résistance quand les deux impuretés sont en même temps dans le nickel. Au contraire, si je choisis deux impuretés qui avaient la même asymétrie, eh bien, même quand toutes les deux seront présentes dans le nickel, elles vont laisser un canal de libre et on n'aura pas cette augmentation, comme cela est représenté sur ces résultats expérimentaux. Et quel est le concept de la magnétoresistance géante? Eh bien, c'est remplacer les impuretés A et B par des couches magnétiques A et B. Et alors, à ce moment, quand on sera dans la situation avec des couches antiparallèles, des mentations opposées, eh bien, on sera dans la situation de gauche sur la figure, c'est-à-dire où une couche bloquera les électrons sur un canal, le canal de spin up, et l'autre sur le canal de spin down. Et la résistivité sera très élevée. Mais à ce moment-là, il est possible, en appliquant un petit champ magnétique, de renverser les aimantations et de passer dans la situation de droite où il n'y a pas cette augmentation de résistivité, un canal reste libre et le métal conduit beaucoup mieux. C'est ça le principe de la GMR et il était plus ou moins anticipé par ce type d'expérience. Seulement, si on connaît la physique du transport électronique, on sait que les électrons pourront se rendre compte que les aimantations des deux couches magnétiques sont orienté dans la même direction ou dans la direction opposée seulement si leur distance est plus proche qu'une quantité que nous appelons le libre parcours moyen, qui est de l'ordre de quelques nanomètres dans ce type de couche métallique. Et à l'époque, il n'était pas possible de fabriquer des multicouches, d'empiler des couches avec des espacements aussi fins que 1 ou 2 nanomètres. Donc ce sont des idées qui existaient, mais qui ne pouvaient pas vraiment être réalisées. Moi-même, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres problèmes. Puis, dans les années 80, avec l'événement de la microélectronique, les progrès de la microélectronique, sont venues des techniques comme l'épitaxie par jet moléculaire qui ont permis, par dépôt sous des vides très poussés, de fabriquer réellement des couches très, très fines, quelques couches atomiques. Et à ce moment-là, il est devenu possible de fabriquer ce type de multicouches. Ça a été réalisé dans plusieurs laboratoires. Et il a été possible, par exemple, de réaliser Alors, ça, c'est le principe de la GMR expliqué. Vous voyez, deux couches d'aimantation antiparallèle. L'une arrête les électrons bleus, l'autre les électrons rouges. On aimante, on applique un champ magnétique, les aimantations deviennent parallèles. Et à ce moment, les électrons bleus sont toujours arrêtés, mais le canal est ouvert pour les électrons rouges et la résistance électrique baisse énormément. Donc, voici un appareil d'épitaxie moléculaire tel qu'il a été possible, qui sont apparus dans les années 80. Et il a été possible de fabriquer ce genre de nanostructure, trois couches atomiques de fer, par exemple, trois couches atomiques de chrome, etc., une multicouche magnétique. Pourquoi fer et chrome? Pourquoi fer et chrome? Parce que Peter Grönberg, coléra du prix Nobel, a trouvé en 1986 que dans ce type de structure, avec des épaisseurs de chrome aussi fines, il y avait des interactions entre les aimantations dans les couches de fer adjacentes qui mettaient les aimantations dans le sens opposé. Donc c'était le système idéal qui permettait d'avoir à champ nul, sans appliquer de champ, une aimantation antiparallèle dans deux couches de fer voisines, et puis en appliquant un champ magnétique, de les mettre parallèles et de passer de la situation de gauche à la situation de droite dans un des projections précédentes. Et ça donnait rapidement lieu à la découverte de la magnétoricité en géante à Orsay et à Jülich en Allemagne. Au fond, voici un des premiers résultats. C'est la résistance électrique en fonction du champ magnétique. Le champ magnétique aligne les aimantations et en même temps, on voit là une variation de 80% de la résistance électrique. Voilà, et ceci, c'est le résultat de Jülich. L'explication, c'est la même que pour les alliages ternaires, c'est-à-dire que dans la configuration parallèle de champ fort, eh bien, un type d'électron, une direction de spin, peut se propager facilement partout, alors que dans la configuration antiparallèle, dans chaque canal, les électrons sont freinés une fois sur deux. Et bien sûr, il faut que les épaisseurs des couches soient très fines, de l'ordre du nanomètre. Comme on le voit sur ces résultats, l'effet maximum est obtenu pour 0,9 nanomètres de chrome séparant 3 nanomètres de fer. Alors évidemment, tout à l'heure, j'ai présenté une figure où le courant était perpendiculaire aux couches, mais en fait, dans ces expériences initiales, le courant était parallèle aux couches, mais comme les électrons ont aussi un mouvement aléatoire dans toutes les directions, les électrons ont fait, même si le courant est parallèle, ont des vitesses obliques, comme ceci, et le phénomène est à peu près semblable. Évidemment, ça, c'est un schéma, une figure trop simple pour expliquer toutes les subtilités de la GMR. Il y a d'autres effets intéressants. Il faut tenir compte, pour une explication complète du phénomène, des réflexions des électrons aux interfaces. Ces réflexions des électrons à l'interface dépendent du raccord des fonctions d'onde des électrons dans les deux matériaux. Ce raccord peut être calculé par des théoriciens en se basant sur l'équation de Schrödinger qui décrit les fonctions d'onde dans la mécanique quantique, mais je ne vais pas entrer dans tous ces détails de la théorie. Beaucoup de théories ont été développées pour comprendre les détails de ces résultats expérimentaux. Je parlerai simplement des applications de la magnétoricité géante. Comme on l'a vu au début, le capteur ici, chargé de détecter les champs magnétiques sur les pistes, où sont les inscriptions magnétiques, les bits, est formé d'une multicouche magnétique dont la résistance électrique va baisser dès que le capteur va se trouver au-dessus d'une zone de champ magnétique. Et grâce au courant qui va augmenter dans cette boucle, on va pouvoir détecter et lire les inscriptions sur la piste magnétique. Et la sensibilité de la magnétoricité géante va permettre de détecter des champs magnétiques plus petits, donc de détecter des bits plus petits, et donc d'en mettre beaucoup plus sur le même disque, et donc a conduit à une augmentation considérable de la densité d'informations stockées sur les disques durs. On voit un peu l'évolution. L'évolution, au fond, ça, c'est la génération juste avant, en 1996, puisque les applications aux disques durs ont commencé en 1997, et on a augmenté depuis lors par un facteur à peu près 600. Et ça va un peu encore continuer. Au fond, les capteurs actuels qui ont permis d'atteindre cette densité ont remplacé depuis quelques années la GMR par la TMR, un autre type de magnétoresistance basée sur des jonctions tunnels dont je parlerai. Ça va continuer encore plus en passant à la GMR, cette fois où le courant est perpendiculaire aux couches, une génération de disques durs sur lesquels on pourra atteindre à peu près 1000 gigabits par pouce carré. L'unité, c'est l'inch par pouce carré. Et ce qui permet donc de stocker énormément de choses. C'est devenu le disque dur, l'outil de stockage de masse le plus performant, qui a doublé tous les autres. On peut, par exemple, mettre 800 000 livres de format livre de poche dans un disque dur de 400 gigaoctets. On peut stocker énormément de photos, etc. De plus, au fond, la possibilité de stocker beaucoup d'informations sur une petite surface a permis de fabriquer des disques durs tout petits de la taille d'une pièce de monnaie, comme par exemple ceux représentés ici. Vous avez un disque dur de la taille d'une pièce de monnaie qui était 4 gigaoctets, et là c'est un disque dur de 100 gigaoctets qui va équiper bientôt des iPods, c'est-à-dire un disque dur de capacité absolument considérable. La technologie qui a été mise au point pour les disques durs a ensuite été étendue à d'autres domaines, et par exemple aux technologies biomédicales. Il y a beaucoup d'applications de la GMR aux technologies biomédicales. Ainsi, voici un exemple d'application, c'est l'analyse de molécules biologiques. Supposons que l'on veuille analyser dans le sang des antigènes, l'antigène PSA par exemple, eh bien, la technique classique, c'est de mettre des capteurs où il y a l'anticorps correspondant qui attire donc les molécules antigènes. Et dans ces systèmes qui sont développés actuellement, on met également d'autres anticorps décorés avec une petite particule magnétique, si bien que finalement, les antigènes capturés sont aussi décorés eux-mêmes par une particule magnétique, et on détecte le petit champ magnétique créé par ces particules par un capteur GMA, ce qui permet de détecter simplement quelques molécules, et donc d'avoir une très grande sensibilité, et d'avoir des capteurs extrêmement petits, au fond, des capteurs de quelques microns. Et dans les projets en développement actuel, il y a des projets où on met côte à côte un millier de capteurs destinés à piéger des molécules différentes pour une analyse en parallèle, non pas d'un seul type de molécule, mais d'un millier de molécules différentes. Ce sont des projets certainement qui viendront dans quelques années, pas tout de suite, mais qui sont très prometteurs. Il y a aussi des applications plus triviales, tous les capteurs de champ magnétique qu'il y a dans les automobiles. Il y a quelques dizaines de capteurs de champ magnétique dans une automobile. J'ai cherché sur divers sites internet des figures de ces capteurs. J'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé une figure qui est sur une espèce d'automobile pas très classique, mais qui est quand même une automobile. Et c'est pour montrer que quand même la technologie MR a même des applications sur d'autres planètes. Voilà. Donc, j'arrête avec la GMR, qui était la première étape de la spintronic. Ce que je peux dire, c'est que, vous voyez, elle est venue à la fois d'une base de physique fondamentale, cette compréhension du rôle du spin dans la conduction électrique des matériaux ferromagnétiques. Cette base était nécessaire. Il a fallu comprendre pourquoi on pouvait obtenir de très forts contrastes entre les deux directions de spin. Et puis, quand même, finalement, la découverte de la GMR est venue de la rencontre entre cette physique de base et puis des progrès technologiques. Souvent, les progrès, les avancées en physique, viennent de ces rencontres-là, entre deux domaines voisins. Là, c'était entre un domaine de physique fondamentale et un domaine de purement technologique. Voilà. Et vous verrez par la suite que aussi, et puis c'était nécessaire pour la spintronique. On a vu que ça fait intervenir, il était nécessaire pour exploiter le spin des électrons dans ce type de nanostructure, d'être capable de fabriquer, d'avoir ces outils de fabrication. Et on verra que dans le développement de la spintronique, eh bien, les progrès des nanotechnologies ont à chaque étape aidé et permis d'aller encore plus loin. Si vous avez déjà des questions à poser à cette petite pause, là, vous pouvez les poser. J'attends quelques secondes et je continue peut-être avec une seconde étape qui a été importante dans le développement de la spintronique, la TMR, Tunneling Magnetic Resistance, qui a aussi des applications intéressantes. TMR, MRAM, Magnetic Random Access Memory. La TMR, c'est... Au fond, c'est encore une multicouche, plutôt deux couches magnétiques, cette fois séparées par une très fine couche isolante. Par exemple, 7 angstrom, 0,7 nanomètres d'alumine. Et la propriété, le transport à travers la couche isolante est fait tunnel. Vous savez qu'un isolant ne conduit pas l'électricité, mais à l'échelle nanométrique, comme les fonctions d'onde des électrons ne sont pas strictement localisées, c'est les propriétés de la mécanique ondulatoire, eh bien, il y a une certaine probabilité quand même pour traverser la couche isolante qui est liée à cette non-localisation des fonctions d'onde, et le courant peut passer par effet tunnel, c'est ce qu'on appelle une jonction tunnel, et dans ce cas-là, une jonction tunnel magnétique. Les propriétés sont un peu les mêmes que pour la magnétoïsante géante. La résistance électrique de cette jonction est différente pour les configurations des aimantations parallèles et antiparallèles. Les effets sont aussi, peuvent être aussi importants. C'est un effet qui avait été plus ou moins observé il y a très longtemps, en 1975, en France, par Julière, mais à basse température, dans des conditions difficiles, il n'avait jamais pu être reproduit régulièrement et on l'avait un peu oublié. Et ce n'est qu'en 1995 qu'une équipe japonaise et une équipe américaine ont permis de montrer qu'on pouvait obtenir des résultats vraiment reproductibles avec des jonctions tunnels magnétiques. Ces jonctions tunnels magnétiques ont déjà des applications. Une application dont j'ai déjà parlé, c'est l'application à certaines têtes de lecture de disques durs. Et une autre application importante, c'est les MRAM et les STT-RAM. En fait, les MRAM sont déjà sur le marché depuis 2 ans, mis sur le marché par Motorola. Bon, il faut que je vous explique quand même comment fonctionne votre ordinateur. Enfin, vous devez le savoir, mais peut-être pas tout le monde. Vous avez dans votre ordinateur une mémoire de masse qui est permanente, c'est le disque dur considérable. Mais le défaut du disque dur, c'est que le temps d'accès à la mémoire est relativement long. Il faut 1 millième de seconde pour accéder à un bit. Et ça, c'est beaucoup trop long pour faire fonctionner les ordinateurs à la vitesse où ils fonctionnent aujourd'hui. Donc, quand vous allumez votre ordinateur, vous prenez une partie de la mémoire du disque dur pour la stocker dans des RAM, hein, Random Access Memory. Ce sont des mémoires qui ne sont pas permanentes. Ce sont des mémoires où l'information est stockée sous la forme d'une charge. Il faut une tension pour maintenir cette charge dans la plupart des mémoires, les DRAM. Mais l'accès à cette mémoire est très rapide, 1 nanoseconde. Donc, les ordinateurs travaillent très rapidement avec ces RAM. Le défaut de RAM, c'est quand même d'être des mémoires volatiles, non permanentes. Elles meurent quand on éteint l'ordinateur, donc il faut stocker, il faut sauvegarder les informations, les documents que l'on a par exemple tapés. Et même pour la plupart, les DRAM, il faut les rafraîchir la mémoire tous les millièmes de seconde. Donc, un certain nombre de défauts. Et l'idée des MRAM, c'est d'avoir des mémoires d'accès aussi rapides, mais permanentes, c'est-à-dire qui n'auront pas le défaut de la volatilité, et en particulier qui garderont toujours une partie de la mémoire, pas toute la mémoire du disque dur, ce serait trop cher. La mémoire dans un disque dur est, par bit est beaucoup moins chère que dans une RAM ou une MRAM, mais une partie de la mémoire pour que, par exemple, l'ordinateur fonctionne non pas au quart de tour, mais au quart de seconde dès qu'on l'allume, hein, et qu'on ne risque pas aussi de perdre des documents quand on plante l'ordinateur et des choses comme ça. La première génération de MRAM a eu des difficultés et n'a pas l'impact que l'on pouvait penser à un moment. Il y a eu des difficultés notamment pour la lecture des... Alors, les MRAM sont constitués comment ? Les MRAM sont constitués... Les cellules mémoire, ce sont des jonctions tunnels. Le 0 correspond par exemple à une orientation parallèle et il y a une antiparallèle. On écrit la mémoire en envoyant pour cette mémoire-là, par exemple, en envoyant des pulses de courant dans ces lignes de courant, ici, de façon que les champs qui créent se coordonnent ici pour renverser l'aimantation d'une des deux couches. Et puis, on lit la mémoire en mesurant la résistance entre le haut et le bas. Alors, les premières générations, 2006, Friskel, Motorola, n'ont pas un impact considérable dans la technologie d'ordinateur. On attend beaucoup plus d'une seconde génération qui est en développement dans un certain nombre de compagnies et qui va profiter à la fois des derniers avantages sur la TMA, dans des jonctions à barrière d'oxyde de magnésium, et aussi par l'écriture par transfert de spin, c'est-à-dire une écriture par transport d'aimantation à distance dans la cellule mémoire. Alors, je dis 2 mots de la TMR des jonctions tunnels avec MGO. Au fond, on est passé maintenant, grâce au progrès technologique, à une génération de jonctions tunnels purement monocristallines. Vous voyez, par exemple, sur cette image de microélectronique, dans la barrière de MGO entre 2 couches de fer, les plans atomiques des atomes de Mg et de magnésium. Ce sont dans des structures qui sont fabriquées aujourd'hui grâce au progrès technologique. Et pour des raisons de physique que je vais expliquer, ces structures monocristallines donnent des magnétoresistances très fortes. Par exemple, 500%, ce qui veut dire qu'on passe de 1 à 6 quand on passe de la configuration antiparallèle des aimantations dans les électrodes de fer. Et la physique est très belle. Je vais m'adresser un peu aux physiciens. Là, je vais, pendant quelques minutes, parler un peu de la physique de ces jonctions tunnels, parce qu'elle est caractéristique quand même sur la physique fondamentale qu'il y a derrière les propriétés de spintronique. Au fond, pourquoi ces jonctions tunnels ont une magnétruissance très forte? Eh bien, premièrement, il faut que je dise que dans un métal, comme le cobalt ou le fer, les fonctions d'onde des électrons qui transportent le courant ont diverses symétries. Ici, je les appelle delta 1, delta 5, delta 2. Ça correspond à diverses symétries de la répartition de la fonction d'onde autour des atomes. Et propriété également que l'on peut retrouver par des calculs théoriques, c'est que le transport tunnel à travers une barrière de MgO va être surtout possible pour une certaine symétrie. Dans ce cas-là, la symétrie delta 1. Donc la symétrie delta 1 va beaucoup mieux passer que les autres symétries de fonction d'onde. Et par ailleurs, eh bien, on sait aussi que pour le cobalt, la symétrie delta 1 n'existe que pour les électrons de spin majoritaire, de spin up. De telle sorte que dans la configuration parallèle, on va pouvoir utiliser ce canal delta 1. C'est-à-dire qu'on aura de ce côté des électrons de spin up majoritaire de symétrie delta 1 qui vont pouvoir passer et aller dans des fonctions d'onde de même symétrie dans la même bande de spin majoritaire. Au contraire, dans la configuration antiparallèle, eh bien, même si les électrons essaient de passer ici, eh bien, de l'autre côté, la direction de spin qu'ils ont va être une direction de spin minoritaire pour lequel il n'existe pas de symétrie delta 1. Et à ce moment-là, ici, il y aura un blocage. Ils ne pourront pas se raccorder à une fonction d'onde dans l'électrode de droite et le courant ne pourra pas passer. Donc, vous voyez, c'est le type de physique qui explique que si on connaît bien la physique de la matière condensée, de ces métaux, de ces isolants, on peut arriver progressivement à augmenter la performance de ces composants-là. Et donc, la composante des jonctions de tunnel magnétique a atteint ces valeurs-là sur la base de cette physique des fonctions d'onde dans les matériaux magnétiques et les matériaux isolants. Voilà. Donc, ceci pour vous montrer qu'il y a toujours une combinaison, ces progrès de la magnétruissance tunnel qui vont aboutir à des progrès intéressants sur les MRAM sont dus à la fois des progrès de physique fondamentale et de progrès technologiques qui permettent de fabriquer actuellement ces jonctions tunnels monocristallines. Je passe maintenant à des nouvelles directions de la spintronique et je vais commencer par le transfert de spin, c'est-à-dire ce transfert d'aimantation à distance par un courant électrique. Hein, comment orienter ou faire osciller le moment magnétique d'un aimant sans utiliser le champ magnétique, mais seulement par transfusion de spin. Hein, c'est ce que je représente sur ce truc-là. La boule, c'est un corps magnétique. Je lui envoie des électrons d'une direction de spin et je renverse son aimantation. Et dans d'autres conditions que j'expliquerai, j'envoie des électrons dans cette boule et ça génère une précession, des oscillations, et finalement, ça génère des oscillations dans la gamme des radiofréquences pour l'émission d'ondes radio. Alors, la physique encore est très belle. Elle a été introduite par un physicien américain qui s'appelle John Slonczynski. Supposons que l'on ait une tricouche comme ceci, une couche qui va permettre ce qu'on va appeler un pilier ici, une espèce de conducteur cylindrique plus ou moins. La première couche, la couche épaisse, va servir à fabriquer un courant polarisé de spin, c'est-à-dire à laisser passer essentiellement les électrons d'une certaine direction de spin, et on va supposer que cette polarisation est oblique par rapport à la direction de polarisation, d'aimantation de la seconde couche magnétique. Quand ces électrons vont pénétrer dans cette couche, bien très rapidement, l'interaction avec ce qu'on appelle le champ d'échange va orienter la polarisation du courant dans la direction verticale. Ce qui veut dire que les électrons du courant ont perdu la composante transverse de leur polarisation de spin. Et en fait, l'interaction d'échange, c'est ce qu'on appelle en mécanique quantique spin conserving. Elle conserve le spin global du système, c'est-à-dire que dans l'histoire, ça veut dire que la composante transverse a été transmise au spin total de la couche, ce qui correspond à une rotation. Au fond, c'est exactement la pétanque. Vous avez en pétanque, ce n'est pas quand vous une boule arrive, si vous visez bien, arrive sur l'autre boule, elle s'arrête et elle cède sa vitesse à l'autre boule. Là, c'est un peu la même chose. Vous avez des électrons qui ont une certaine composante transverse d'aimantation. Ils la perdent et ils la transmettent à l'aimantation de la couche, ce qui va permettre soit de faire tourner, soit de faire osciller l'aimantation de cette couche magnétique. Alors, ça se fait, il faut des densités de courant très fortes, ce qui veut dire qu'on fabrique ce qu'on appelle des piliers. Vous voyez, on découpe, ça c'est la couche polarisatrice, et puis le courant est confiné pour avoir une forte densité dans ce pilier ici, et va permettre de manipuler l'aimantation de cette couche. Et entre les deux, ça peut être une couche de cuivre ou aussi une couche isolante, une jonction de tunnel, MGO. Voici une image du microscope électronique d'un tel pilier avec une jonction de tunnel de MGO. Et on va voir deux types d'effets. Le premier, c'est simplement un renversement de l'aimantation. L'échange, le transfert de spin va permettre de renverser l'aimantation. On va voir les applications à l'écriture magnétique. Et dans un deuxième régime, eh bien, si on met par exemple un champ appliqué qui freine, qui va empêcher le renversement total de l'aimantation, eh bien, le système va se bloquer dans un état de précession entretenue, comme ceci. Et dans ce régime de précession, ça veut dire que l'aimantation de la couche fine va changer périodiquement d'orientation par rapport à l'aimantation de la couche fixe. Et donc, grâce à l'effet de GMR, ça veut dire que la résistance va avoir une variation oscillante. Et avec un courant, ça va donner une variation oscillante de tension, donc une certaine puissance alternative à exploiter dans le domaine du gigahertz, dans le domaine typique d'oscillation de ces... Voilà. Donc, par exemple, voici un régime d'oscillation, voici les trajectoires simulées, calculées par la théorie de précession de cette aimantation générée par transfert de spin. Et ça donne finalement une puissance micro-ondes, une puissance hyperfréquence, qui, dans ce cas-là, est centrée autour de la fréquence de 3 GHz, typique des fréquences micro-ondes. Alors, on va avoir divers types d'applications, des effets de... j'ai oublié ces effets de... d'autres. En fait, on peut faire beaucoup de choses avec ces spins par transfert de spin. Là, c'est un autre type de mouvement qu'on va provoquer. Dans ce type d'expérience, eh bien, on injecte un courant dans une tricouche magnétique à travers un petit trou, ici un trou nanométrique, 10 nanomètres par exemple. Le champ magnétique circulaire créé par ce courant va d'une part créer une configuration circulaire d'aimantation, ce qu'on appelle un vortex ici, et d'autre part le couple de transfert de spin, l'effet de transfert de spin va provoquer des mouvements de cette structure, comme vous allez le voir sur les simulations qui sont ici. Donc voici un autre type de mouvement qu'on peut provoquer par transfert de spin autour. Et si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir que dans la zone du trou ici, dans la zone où passe le courant entre les deux couches magnétiques, eh bien, on a une aimantation qui tourne, qui va passer. Donc l'aimantation d'une couche va osciller par rapport à l'aimantation de l'autre. L'effet de magnétoïssance géante va se traduire par des oscillations de résistance, des oscillations de tension, et finalement générer une puissance micro-ondes que l'on peut utiliser, par exemple, pour envoyer des ondes radio. Cette fois, c'est dans la gamme de 500 MHz. Voilà. Donc, je crois que j'ai loupé un transparent qui a dû... Ce système ne marche pas. Oui, voilà. J'ai loupé ce transparent-là. Premier type d'application, l'application à l'écriture magnétique par le renversement par transfert de spin. Comme je l'ai dit, dans la première génération de MRAM, l'écriture d'une jonction tunnel dans une MRAM se faisait en envoyant des pulses de courant dans deux lignes, qui créaient des champs circulaires autour, qui se combinaient à l'endroit où les lignes se croisaient pour renverser l'aimantation. Ça avait certains inconvénients. Vous savez, le champ créé par ces courants n'est pas s'étend à relativement grande distance. Donc, il y avait le danger non seulement d'écrire celui-ci, mais d'écrire aussi les cellules voisines. Et donc, ça empêchait beaucoup le rapprochement, par exemple, des cellules. Ça a été une limite à l'augmentation de la densité de ces systèmes de RAM. La prochaine génération sera basée sur une écriture par transfert de spin. C'est-à-dire envoyer un courant dans la jonction tunnel et par transfert de spin, comme je l'ai vu tout à l'heure, renverser l'aimantation d'une des deux couches. Et il y a déjà pas mal de projets pour intégrer ce type de MRAM dans les ordinateurs. Le projet, ce sera ces systèmes de STT RAM, Spin Transfer Torque RAM, seront probablement, par exemple, intégrés sur les structures semi-conducteurs logiques des microprocesseurs de cette façon-là, ce qui a plusieurs avantages. Ça diminue la taille des microprocesseurs par rapport au système classique, où j'avais une mémoire semi-conducteur à côté de la structure logique. Ça diminue aussi le nombre de transistors, ça diminue la consommation d'énergie, ça augmente la vitesse en rapprochant la mémoire de la logique. Et donc, ça, c'est certainement une technologie qui va avoir, on l'espère, un certain impact dans les ordinateurs du futur, dans quelques années sans doute, pour remplacer certaines mémoires à semi-conducteurs, flash et SRAM. Alors, en fait, c'est un peu une évolution actuelle d'essayer de plus en plus de combiner spintronic avec électronique avec semi-conducteurs, et ça, c'est un bel exemple qui devrait marcher prochainement. Donc, application de la génération d'oscillations radio. Les applications seront bien sûr dans le domaine des télécommunications, c'est-à-dire téléphonie, Wi-Fi, radar. Hein. L'avantage de ces nouveaux oscillateurs qu'on appelle déjà STO, Spin Transfer Oscillator, c'est surtout leur agilité. Au fond, la fréquence d'oscillation qui est générée par transfert de spin dépend du courant que l'on envoie, et donc on peut la faire bouger assez rapidement. Au fond, dans votre téléphone portable, l'oscillation initiale est donnée par les vibrations mécaniques d'un quartz, par exemple, ou d'une surface de quartz. C'est une fréquence fixe qu'on amplifie et qu'on porte à la fréquence voulue. L'avantage de ces dispositifs, ce sera de pouvoir faire varier la fréquence pour utiliser plusieurs gammes de fréquences, par exemple, dans le même appareil. Il y a aussi d'autres avantages, la petite taille, l'intégration possible sur puce. Il y a déjà des progrès, des projets de tête de lecture où un oscillateur de transfert de spin sera intégré à la tête de lecture pour aider l'écriture sur le disque dur. Le problème actuel, c'est la puissance. Ces petits oscillateurs ont des puissances très faibles. Donc, un challenge actuel sur lequel travaillent quelques équipes, c'est la synchronisation d'oscillateurs de transfert de spin. Il y a déjà quelques résultats. Nous travaillons là-dessus. Je montre un des résultats, par exemple, ce qu'il a été possible de faire dans notre laboratoire, c'est le travail d'un postdoc italien, Antonio Ruotolo, c'est de synchroniser le mouvement des vortex générés sous 4 nanocontacts de ce type-là. Et pour augmenter la puissance et réduire, vous voyez par exemple ici, en fonction du courant, quand on augmente le courant ici, eh bien on passe d'un régime où on a 4 raies à un régime où on a une seule raie beaucoup plus fine et beaucoup plus intense, correspondant à la synchronisation. Donc c'est une des voies possibles pour augmenter la puissance de ces générateurs d'oscillation et arriver sans doute à des applications. Encore un autre effet de transfert de spin, les transferts de spin, ça ouvre un certain nombre de portes, un nombre de portes considérables, et c'est très intéressant d'en parler. Au fond, un autre effet de transfert de spin, c'est-à-dire de modification d'aimantation par un courant polarisé de spin, c'est le déplacement d'une barrière entre domaines. Au fond, dans un fil magnétique, par exemple, vous pouvez avoir deux domaines, ce qu'on appelle des domaines magnétiques. Celui-ci a l'aimantation vers la droite, celui-ci a l'aimantation vers la gauche. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle une paroi. Une paroi où je ne décrirai pas la configuration des spins dans cette paroi. Mais par transfert de spin aussi, en faisant passer un courant, on peut déplacer cette paroi. J'en donne un exemple expérimental ici. Je ne décris pas la technique expérimentale, mais sur ce fil très petit, de quelques dizaines de nanomètres, eh bien, la paroi, c'est la transition entre le noir et le blanc. Ça, c'est une paroi. Et voyez qu'en envoyant un courant, un pulse de courant de 5 nanosecondes, très court, on peut déplacer cette paroi. Ça se déplace entre A, B, C. Et donc, ça aussi, c'est une façon, c'est quelque chose qui aura des applications. Et je vais parler d'une application qui est en train d'être étudiée à IBM et qui peut-être apparaîtra dans quelques temps. C'est l'objectif de cette application, est basé sur l'argument suivant. Les disques durs, c'est très bien, ça a une mémoire considérable, mais ça a un défaut, il y a une partie mécanique, la tête de lecture qui est obligée de bouger pour aller chercher l'information, et c'est d'où la fragilité des disques durs que vous connaissez sans doute. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à la même capacité que les disques durs, mais avec quelque chose purement solid state, purement électronique, sans aucun élément mécanique. Et voici le principe. Le principe, c'est de stocker l'information, cette fois sous la forme de parois. Au fond, d'abord, de déposer dans des tranchées gravées dans du silicium ces espèces de rubans nanométriques d'un métal magnétique, comme ceci, de mettre en plus des encoches pour que les parois se mettent préférablement à ces encoches. Et donc, l'information sera stockée de la façon suivante. Eh bien, si à cette encoche, il y a une paroi, on dira que c'est 1. S'il n'y a pas de paroi, on dira que c'est 0 en information binaire. Donc, on peut, de cette façon-là, stocker de l'information. Vous concevez qu'on peut stocker de l'information sous la forme d'un train de parois. Et ensuite, il faut soit écrire, soit lire ces parois. Et ça, à ce moment, le principe, c'est d'envoyer un courant pour les lire, par exemple, pour les faire passer devant un capteur GMR qui permettra de voir s'il y a une encoche donnée, il y a une paroi ou il n'y en a pas, et donc de lire l'inscription magnétique, ou bien encore, par un autre procédé, de décrire la paroi là où il n'y en a pas, ou d'en détruire une là où il y en a. Donc ça, c'est quelque chose qui est en étude. Peut-être ça aboutira. On sait que c'est un challenge assez difficile. Je vais terminer par quelques mots sur le spintronique avec semi-conducteurs et molécules. Au fond, la spintronique se développe actuellement dans de très nombreuses directions. Et je ne peux pas parler de toutes, mais je vais dire deux mots de la spintronique avec semi-conducteurs et avec molécules. Avec semi-conducteurs, au fond, vous comprenez sans doute qu'on peut comprendre facilement que la spintronique avec semi-conducteurs est attractive, puisque au fond, la fusion entre spintronique et électronique permettrait de combiner le potentiel de l'électronique classique, c'est-à-dire la possibilité de moduler le courant dans un transistor, par exemple, avec un effet de gris, une tension électrique, le couplage avec l'optique qui est possible avec les semi-conducteurs et qui n'est pas possible avec les métaux de la spintronique. Et puis, la spintronique amène non seulement le caractère de mémoire permanente, la non-volatilité, mais aussi d'autres moyens d'agir sur les courants en agissant sur le spin. Par exemple, on peut concevoir des transistors à spin où on renverse le spin à un endroit donné sur un circuit, sur un courant électrique. Par exemple, on peut envisager aussi des systèmes avec des courants purement de spin, sans courant de charge. Courant purement de spin, c'est des conducteurs où l'on aurait des électrons de spin opposés qui se dirigent en sens opposé. Et donc, il n'y a pas de courant de charge, pas d'effet capacitif, et uniquement des courants de spin que l'on peut manipuler et avec lesquels on peut concevoir un certain nombre de composants. Il y a deux voies actuellement pour la spintronique avec semi-conducteurs, c'est soit combiner dans des structures hybrides des métaux magnétiques et des semi-conducteurs. Ça, c'est par exemple un exemple de spin light emitting diode qui, en injectant des électrons dans une LED, dans une LED à partir d'un matériau magnétique, permet d'émettre de la lumière polarisée circulairement. Je n'entre pas dans les détails. L'autre voie, c'est de fabriquer, de partir de semi-conducteurs classiques comme l'arsenone de gallium, de lui injecter des impuretés magnétiques pour le rendre ferromagnétique. Ça marche avec certains. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à fabriquer un matériau semi-conducteur ferromagnétique qui garde ses propriétés à température ambiante, ce qui est quand même nécessaire pour la plupart des applications, si bien que je crois que cette voie, pour le moment, est la plus pratique, combiner dans une même structure des matériaux magnétiques et semi-conducteurs. C'est un peu ce qu'ils ont fait dans les MRAM et les STRAM que j'ai décrit tout à l'heure. Mettre sur une structure semi-conducteur logique un système de mémoire magnétique. Donc il y a un certain nombre de composants qui sont actuellement étudiés. Ça, c'est un transistor à spin qui a la fonction transistor mais basé sur des effets de spin. Ceci, c'est un modèle de porte logique pour microprocesseurs universels qui servirait à toutes les fonctions de porte logique si l'on renverse ces plots magnétiques sur la structure. Les progrès n'ont pas été tellement rapides dans toutes ces directions. Il y a encore du travail à faire, il y a encore de la physique à comprendre, mais les choses avancent. On peut penser que dans quelques années, on aura sans doute des composants de ce type qui permettront, par exemple, de pousser un peu plus la barrière. Vous savez que la loi de Moore a une évolution qui va s'arrêter prochainement, on prévoit dans une dizaine d'années. Ce type de structure, combinant spintronique et électronique, permettra peut-être de faire pousser prolonger cette loi de Moore un peu plus loin. Et puis, il y a certainement d'autres choses qui arrivent actuellement en spintronique et en électronique aussi. C'est l'émergence de nouveaux types de matériaux extrêmement intéressants, matériaux moléculaires. Vous avez sans doute entendu parler des nanotubes de carbone. Ce sont des tubes très fins composés d'atomes de carbone sur une espèce de réseau hexagonal que l'on plie pour faire un tube. Ce sont des conducteurs qui ont des propriétés, ce sont des molécules qui ont des propriétés extrêmement intéressantes, une très grande rigidité et pour la conduction électrique, une très grande mobilité des électrons. Par exemple, on a conçu en électronique moléculaire des transistors basés sur la conduction dans ce nanotube de carbone, vous voyez, entre électrodes conductrices. L'autre matériau qui est certainement très prometteur, c'est le graphène, qui est un nanotube déplié, qui a un peu les propriétés du nanotube de carbone, mais avec une structure plane qui est certainement plus pratique pour un certain nombre d'applications. Il y a également un certain nombre de molécules qui sont étudiées dans des structures de type transistor. Là, je parlais essentiellement d'électronique, mais pour la spintronique, ces composés carbonés ont, au fond, le temps de vie du spin, qui est un paramètre important en spintronique, il faut qu'il soit le plus long possible, et dépend du couplage spin-orbite, et dépend de la masse de l'atome, de la masse du noyau. Et ce couplage spin-orbite est très faible pour le carbone, dont ces composés carbonés, par rapport aux matériaux usuels, métalliques ou semi-conducteurs, ont des temps de vie de spin beaucoup plus longs et donc sont très prometteurs aussi pour la spintronique. Au fond, j'en donne un exemple sur des nanotubes de carbone, des expériences qui ont été réalisées en collaboration entre mon laboratoire et Cambridge. Un nanotube de carbone, vous avez la vue d'artiste ici, entre deux couche magnétique ici. Au fond, c'est, vous voyez le nanotube ici, le cliché de microscope électronique, les couches magnétiques et le nanotube de carbone. C'est au fond un peu la même structure qu'une multicouche pour la magnétoïsante géante, sauf que l'on remplace l'espaceur de cuivre ici par un nanotube de carbone. Donc, au fond, en magnétoïsante géante, ces systèmes avaient de la magnétorésistance quand l'épaisseur non magnétique entre les deux ferromagnétiques était de quelques nanomètres. Or, pour un nanotube de carbone, vous voyez que ces effets existent même pour des longueurs supérieures au micron. On a des effets de magnétorésistance 70%, 60%, ce qui veut simplement dire que ce sont des matériaux extrêmement performants pour la spintronique à cause d'un temps de vie de spin très long et des longueurs qu'on appelle longueur de diffusion de spin, sur lequel on peut espérer avoir des effets de ce type, qui sont de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, 50 de nanomètres. Donc, ceci simplement pour illustrer le fait qu'il y a actuellement toute une génération de nouveaux matériaux qui apparaissent pour l'électronique aussi bien que pour la spintronique et qui sont certainement très prometteurs pour les années à venir. Je vais m'arrêter là. J'ai pas pu parler de tout, il y a encore d'autres directions intéressantes, il y a aussi de l'optospintronique, il y a aussi une direction extrêmement intéressante, c'est la direction, les recherches qui se développent en vue de réaliser un ordinateur quantique, c'est-à-dire un ordinateur qu'il ne manipulerait pas une information basée sur le 0 et 1 binaire des ordinateurs actuels, mais en combinant des états quantiques. Je n'ai pas le temps d'expliquer plus avant, en combinant une information purement fonction d'onde quantique. Les directions sont multiples, et pour vous en donner une idée, on a du pain sur la planche. La spintronique va se développer encore. Le pain sur la planche, c'est le pain sur la planche qui est proposé, par exemple, aux physiciens japonais par le Japan Applied Physics Society. Vous voyez que jusqu'en 2036, je crois, ils ont du pain sur la planche, puisqu'il y a un programme basé non seulement sur l'ordinateur quantique, spin photonique, le stockage d'informations, les MRAM, les spin transistors, le spin transfer. Vous voyez, il y a énormément de directions intéressantes qui émergent actuellement en spintronique. Je ne vais pas décrire toutes ces directions. Moi, je vais résumer la situation en disant que la spintronique est une science toute jeune. C'est un petit bébé par rapport à d'autres sciences. Mais actuellement, elle est dans une période où elle pousse très bien, ce que j'ai résumé sur cette dernière image. Vous voyez la petite spintronique. Alors, on ne sait pas si elle va devenir aussi grosse que sa maman. On a le temps encore. Et mon dernier transparent, c'est simplement pour remercier tous les gens qui ont travaillé avec moi au laboratoire CNRS Thales. Et pour terminer sur notre conclusion, vous avez vu que, au fond, mon sentiment, c'est que la recherche, c'est passionnant. C'est passionnant en recherche d'imaginer les choses. Vous avez vu que tout un tas de nouveaux phénomènes se sont révélés. C'est des choses que nous, chercheurs, on a d'abord imaginé dans notre tête, ces histoires de GMR, de spin transfer. C'est des gens d'abord qui l'ont imaginé dans leur tête en faisant des scénarios avec des spins des électrons. Et puis, c'est merveilleux de voir ces choses se réaliser, se concrétiser. C'est encore plus fantastique quand on les voit apparaître comme application. Ça, c'est un des plaisirs de la physique et de la recherche, hein, le plaisir de l'esprit, le plaisir de l'imagination et le plaisir de voir se concrétiser son imagination. Et le deuxième plaisir, c'est le plaisir de travailler en équipe, hein. Aussi important sans doute, hein, puisque une équipe de recherche, c'est une équipe en général soudée dans un but commun. On ne peut pas faire de la recherche tout seul actuellement, les technologies deviennent très lourdes. Voilà. Donc j'ai terminé en décrivant les deux plaisirs qui ont été pour moi, qui sont pour moi toujours mon activité de recherche. Et maintenant, je vous remercie pour votre attention.
Bien, merci Albert Fer. Nous allons passer aux questions. Donc, on a une là-bas. Ça va être. Oui, ça vient.
Bonsoir. Je voudrais savoir comment ça va se passer au niveau des interférences électromagnétiques. Quand les disques durs seront comme vous l'avez décrit, si vous allumez votre portable ou s'il se met à sonner à ce moment-là, est-ce que ça va tout effacer sur le disque dur ? Merci.
Non. Si vous faites référence à quoi ? Au système de remplacement de disques durs par le système avec les parois de domaine, le truc en tortillon comme ceci.
Vous savez que les interférences électromagnétiques perturbent un appareil, peut perturber un autre appareil.
Oui.
Donc au moment où la mémoire sur l'ordinateur sera par un champ magnétique, est-ce que ça risque
ce
pas
sera
de l'effacer ?
Ce ne sera jamais une mémoire par un champ magnétique. Tout ça, c'est des histoires d'électrons et de spin. Ça n'a pas beaucoup de choses à voir avec le champ magnétique.
C'est quand même des transferts
de spin.
Ou alors
de
j'ai
spin.
Rien compris.
L'interaction entre les spins, c'est une interaction coulombienne. C'est une interaction d'échange qui n'est pas à voir avec les champs magnétiques. C'est l'interaction dont j'ai parlé, qui permet en transportant des électrons de le faire interagir avec l'alimentation, c'est l'interaction d'échange qui est une partie de l'interaction coulombienne qui dépend du spin, mais qui n'est pas un champ magnétique. Donc je crois que la tendance, au contraire, quand on passe des MRAM où il y avait des champs magnétiques, au STT-RAM, on supprime les champs magnétiques. Si vous voulez, dans le premier système d'écriture actuel, il y avait des champs magnétiques créés par ces lignes de courant qui se croisent. Hein. Là, c'était des champs magnétiques. Et ça, c'est quelque chose que l'on cherche à supprimer et qu'on remplace dans la prochaine génération par ce transfert de spin. C'est-à-dire manipuler l'aimantation non pas par des champs magnétiques, hein, comme je l'ai dit, j'ai dit ne plus manipuler l'aimantation par des champs magnétiques, mais le manipuler par des transports électriques de spin et des transfusions de spin. Au fond, il faut aller dans cette direction-là. Si vous voulez, la tendance générale, c'est d'aller dans cette direction de...
Ici, monsieur. Ici, à gauche.
Merci. Allô, bonsoir. Oui, j'aurais une question par rapport au transfert de spin. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait une composante du spin du courant électrique qui était transférée dans le matériau qui pouvait servir de filtre, mais j'ai également cru comprendre que le spin était quantifié, il pouvait être seulement up et down. Oui. Donc comment il pouvait y avoir des composantes de spin
transverse, oui. Parce que c'est statistiquement, au fond, quand on parle de polarisation, quand on parle d'un électron donné, son spin ne peut être que dans une direction ou dans l'autre, mais quand on parle, fait la statistique sur 10 puissance 23 électrons, à ce moment-là, on peut avoir une orientation moyenne qui est oblique. Oui. Quand on passe de la physique à un électron à la physique à un électron. En gros, c'est la réponse.
Il y a une ici. Vous voulez poser une question ? Non ? Ah, monsieur, ici.
Hier, on a bien vu, enfin, du point de vue cérébral, qu'il y avait des interactions entre radiofréquences, enfin, les noyaux d'hydrogène, etc. Est-ce qu'avec la spintronique, on envisage éventuellement une thérapie cérébrale, enfin, dans certains cas ?
Une thérapie cérébrale ? La spintronique, vous voyez, c'est pas des ondes, hein, ce sont des courants électriques polarisés de spin. Hein. Donc, vous faisiez allusion à l'interférence d'ondes radio avec l'organisme. Ce n'est pas le domaine de la spintronique, au fond. Le domaine de la spintronique, c'est le domaine de courant chargé de spin. Voilà. Évidemment, le spin transfert peut servir de base à des oscillateurs qui permettent ensuite, avec des antennes, de faire des ondes. Hein. Donc, il sera possible de faire des ondes, mais ce n'est pas le problème de la spintronique tellement.
Une autre question ? Ah, je vois en haut quelqu'un qui n'avait pas vu tout en haut.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir comment on fait pour observer les électrons, en fait, avec quel appareil, s'il vous plaît ?
Ben, on n'observe pas. Les électrons, on peut à la rigueur les observer avec un appareil qui s'appelle STM, microscope de Scanning Tunneling Microscope. C'est-à-dire une pointe qui... c'est une méthode générale qui s'est développée depuis une quinzaine d'années et qui permettait d'observer les atomes. Et maintenant, on peut même voir à la surface d'un métal, par exemple, certaines ondes de densité électronique. On ne voit pas l'électron 1 à 1, mais on voit la densité électronique, on voit un atome, on voit, par exemple, divers renversements de la densité électronique sur un rayon autour d'un atome, autour d'un défaut. On ne voit pas un électron isolé, ça c'est... Dans toute cette physique, on a des images théoriques, on a des images simulées sur ordinateur, mais la limite de l'observation, c'est l'atome.
D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça sert l'accélérateur de particules, s'il vous plaît ?
L'accélérateur de particules, c'est quelque chose qui sert aux physiciens des hautes énergies, c'est-à-dire les physiciens qui s'intéressent aux aux particules que l'on peut créer aux très hautes énergies, par exemple au CERN à Genève, et dont c'est quelque chose qui accélère des particules à très grande vitesse pour les faire entrer en collision avec une autre particule, pour les briser et pour aller... Notre physique à nous, c'est une physique toujours basée, la physique de notre matière et la physique que nous étudions, c'est une physique où nous avons des noyaux, des électrons, c'est tout. Hein. Et les énergies, aux énergies que nous considérons, dans notre monde aujourd'hui, sur notre Terre, on ne peut avoir que des noyaux, c'est-à-dire formés de protons et neutrons, et des électrons. Mais si on monte en énergie, si on essaie de casser ces noyaux, ces protons, ces neutrons, avec une énergie beaucoup plus forte, on peut les briser en d'autres particules. C'est l'objet d'études de la physique des hautes énergies. C'est pour percer les mystères de l'univers. C'est pour savoir ce qui s'est passé au moment du Big Bang. C'est la physique. Les accélérateurs de particules permettent d'avoir ces hautes énergies et d'étudier ce type de physique.
Tout en haut, madame.
Oui, monsieur, je voulais vous demander, s'il vous plaît. Il y a en ce moment une découverte qui se produit, qui m'intrigue énormément, et je voulais savoir si votre domaine s'appliquait à cette découverte. La découverte, la voilà. Le fil électrique actuel freine l'électricité, ce qui fait qu'au bout d'une certaine distance, l'électricité finit par mourir. Or, en ce moment, on fait une découverte qui consiste à avoir un fil électrique dans un certain alliage qui supprime ce freinage et qui permet à l'électricité sans perte de circuler à l'infini. Alors, l'inconvénient de cette technique pour le moment, c'est qu'il faut mettre ce fil à une température en dessous de zéro très forte. Alors, est-ce que vous rentrez dans ce genre de problématique ?
C'est de la physique de la matière condensée, c'est-à-dire c'est un domaine que je connais bien et que j'ai enseigné. Ce n'est pas mon domaine de recherche actuel, donc c'est la supraconductivité. La supraconductivité a été découverte en 1905. Jusqu'en 1986, la supraconductivité connue existait dans certains matériaux à des températures très basses, de l'ordre de quelques degrés Kelvin. En 1986, une grande découverte a été la découverte de nouveaux types de supraconducteurs dont la température de supraconductivité, au fond, la supraconductivité existe à basse température, mais sur ces nouveaux types de supraconductivité, elle existait jusqu'à, mettons, 150, 170 degrés Kelvin. Donc ça a été une grande émotion dans le milieu des physiciens de la matière condensée, et on a essayé de monter, de faire progresser cette température, mais depuis 1986, elle n'a guère progressé. Et au fond, actuellement, il y a quelques installations électriques qui transportent de l'électricité dans des supraconducteurs, mais c'est très compliqué. On est obligé de refroidir dans de l'azote liquide le supraconducteur tout le long de son trajet. Donc, ça ne peut s'appliquer que dans des cas très particuliers. Ce n'est rentable que dans des situations très particulières. Et actuellement, les espoirs de faire progresser cette température à laquelle la supraconductivité existe ont été un peu déçus depuis 86.
On va prendre une dernière question.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment se passe le transfert de spin ? Vous avez expliqué tout à l'heure que quand deux boules de billard se cognent, il y a la quantité de mouvement qui passe de l'une à l'autre. Alors, comment ça se passe, le transfert de spin ?
Alors, dans les boules de pétanque ou de billard, c'est ça, on vous parlait de quantité de mouvement, linéaire. Une boule, la quantité de mouvement totale de l'ensemble des deux boules est conservée. C'est-à-dire, une s'arrête et la quantité de mouvement, la vitesse, est prise par l'autre. Quand je parle de spin, le spin, on peut dire que c'est une quantité de mouvement de rotation. Donc, quand j'envoie des spins qui ont un courant qui est polarisé dans une certaine direction, si ensuite les électrons qui ressortent de la couche magnétique sont orientés dans l'autre direction, ça veut dire qu'ils ont perdu une certaine quantité de mouvement de rotation. Et la conservation de la quantité de mouvement de rotation est la même que la conservation de la quantité de mouvement linéaire, c'est-à-dire cette quantité de mouvement de rotation a été transmise au corps magnétique. Et comme la quantité de mouvement de rotation, c'est aussi l'aimantation, c'est un changement d'aimantation. Au fond, dans les boules de billard, ce serait, je ne sais pas si ça existe comme coup, si vous donniez un lift à la boule de billard et qu'elle transmettait ce lift à la boule de billard qu'elle frappe. Je ne sais pas si ça existe, s'il y a des spécialistes de billard qui peuvent me dire si cet effet existe.
Bien, nous allons... Albert Fer, nous allons vous remercier pour votre conférence. Merci beaucoup.